D'habitude, quand on regarde un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision absolue. C'est presque de l'ingénierie, en fait.
Ouais, c'est vrai, on veut du concret.
Voilà, une fracture du bras, la radio, elle montre cette ligne blanche super nette. Et le médecin a juste à pointer du doigt en disant que le problème, il est là.
C'est binaire, quoi. C'est cassé ou c'est pas cassé. C'est sûr que l'esprit humain, il adore ce qui est visible et ce qui rentre dans des petites cases bien précises.
Exactement. Mais alors, dès qu'on décide de mettre un pied dans le domaine de la cosmologie et surtout les origines de l'univers...
Ah bah là, il n'y a plus de certitude.
C'est ça. La belle certitude, elle vole en éclats. C'est comme si la machine à rayons X s'emballait complètement. On se retrouve face à un paysage qui est extrêmement trouble.
Très trouble, oui.
Donc aujourd'hui, on va essayer de lire ensemble cette espèce de radio cosmique un peu floue. Notre plongée au cœur du cosmos, elle s'appuie sur les notes des Hermann Lectures de 2022.
Des conférences vraiment passionnantes données par Perry Phillips sur le commencement de l'univers.
Ouais, et d'ailleurs, petit détail super amusant avant de commencer, avant d'étudier l'origine de tout ce qui existe, ce monsieur travaillait comme ingénieur en assurance qualité pour Verizon.
Ah oui, sur les toutes premières boîtes vocales, c'est ça?
C'est ça, donc un sacré grand écart professionnel.
C'est clair. Passer des bugs de messagerie téléphonique à la texture de l'espace-temps, faut une sacrée gymnastique mentale.
Mais en vrai, c'est une compétence super utile. Son boulot, c'était de chercher les limites du système, pousser la machine pour voir où ça casse.
Et c'est pile ce que font les astrophysiciens.
Voilà. Ils prennent nos lois physiques et ils les poussent aux confins de l'univers pour voir si elles tiennent encore le choc. Ce qui nous amène direct au fameux Big Bang.
Le terme incontournable. Et ce qui est fou avec ce mot, c'est que ça n'avait rien de scientifique ou de solennel à la base.
C'était une blague, non ?
Pire qu'une blague, c'était une insulte. C'était une expression totalement péjorative inventée par l'astronome Fred Hoyle.
Attends, le gars qui a donné son nom à la théorie n'y croyait pas du tout.
Ah, mais pas une seconde! C'était à la radio, à la fin des années 40. Hoyle, lui, il croyait dur comme fer à un univers stationnaire. Un univers qui a toujours été là, sans début ni fin.
D'accord.
Donc l'idée que tout le cosmos ait pu jaillir d'un seul point, ça lui paraissait tellement ridicule qu'il a balancé ce terme de Big Bang juste pour se moquer de ses collègues.
Arriver sur les lieux d'une explosion et étudier la trajectoire des débris pour comprendre d'où vient le souffle.
Tout à fait. Et tout ce jeu de pistes, il a commencé au début du XXe siècle, avec l'observation du ciel.
Faut s'imaginer en 1912, il y a un étudiant, Vesto Slipher, qui mène une recherche, une recherche assez banale pour l'époque.
Il cherchait quoi exactement ?
Il voulait juste mesurer la vitesse de rotation de ce qu'on appelait les nébuleuses spirales. On ne savait pas encore que c'était des galaxies entières, comme Andromède.
Ah, on croyait que c'était juste des nuages de gaz dans notre propre galaxie.
Exactement. Donc il s'attendait à voir des petits mouvements orbitaux de routine, mais en regardant la lumière de ces objets, il a vu un truc impossible.
Elle ne faisait pas que tourner ?
Non. Presque toutes s'éloignaient de nous, et à des vitesses folles.
Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que l'implication est énorme. Imaginons qu'on regarde les molécules d'air dans la pièce où on est assis.
D'accord, je visualise.
En temps normal, elles bougent de façon hyper chaotique. Si tu prends une stat, t'auras la moitié des molécules qui viennent vers toi et l'autre moitié qui s'en va. C'est juste les probabilités.
C'est le hasard, oui.
Mais si d'un seul coup, tu remarques que 100% des molécules foncent vers le mur d'en face...
Ah bah là, c'est qu'il y a un truc qui cloche.
Voilà. Tu te dis pas que c'est le hasard. Tu te dis que quelqu'un a allumé un ventilateur géant, il y a une force active. Eh ben, Slipher, c'est ce qu'il a vu. Quelque chose repoussait toutes les galaxies au loin.
Et pour prouver ça, il a utilisé ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le fameux redshift.
Qui vient de l'effet Doppler, c'est bien ça ?
L'analogie du klaxon de voiture.
Exactement. Quand une voiture arrive vite vers toi, les ondes sonores s'écrasent, donc le son est aigu. Et quand elle s'éloigne, les ondes s'étirent et le son devient plus grave.
Et ça marche pareil avec la lumière ?
C'est le même principe. Oui, si une galaxie s'éloigne, la lumière qu'elle émet, elle s'étire en voyageant vers nous. Et une onde lumineuse étirée, visuellement, s'attire vers le rouge.
Et si elle s'approche, ça se compresse et s'attire vers le blue shift.
Voilà.
Et Slipher, en regardant dans son instrument, il ne voyait presque que du rouge partout. Le fameux red shift.
Mais il y a quand même une exception qui me chiffonne un peu dans le texte. Si ce ventilateur cosmique repousse tout, comment ça se fait qu'Andromède, notre voisine, présente un blue shift?
Ah.
Ouais, la source dit qu'elle fonce droit sur nous avec un crash prévu dans genre 2 milliards d'années. C'est contradictoire avec l'idée d'expansion, non?
C'est ce qui est super intéressant ici en fait. C'est qu'il y a une bataille permanente à l'échelle cosmique. Une lutte entre l'expansion de l'univers qui veut tout éloigner et la gravité locale.
Ah, la gravité résiste.
Ouais, la gravité, elle attire les masses. Elle est ultra puissante de près, mais elle perd très vite de sa force avec la distance.
Contrairement à l'expansion.
C'est ça. Du coup, la limite se situe autour de 250 millions d'années-lumière.
D'accord. Donc, en dessous de cette distance, c'est la gravité qui gagne le bras de fer.
Exactement. Andromède n'est qu'à 2,5 millions d'années-lumière. À cette échelle, l'attraction entre nos deux galaxies écrase totalement la force de l'expansion. Donc, on va fusionner.
On est en colocation forcée avec le voisinage.
C'est une bonne façon de le voir. Mais au-delà de cette bulle, paf, c'est l'expansion qui gagne.
N'empêche, cette idée que l'univers bougeait, ça a vraiment secoué les scientifiques de l'époque. Il y avait un vrai dogme autour d'un univers fixe.
Ah oui, tout le monde croyait à un univers statique et éternel, même les plus grands génies.
C'est là qu'Albert Einstein entre en scène. En 1915, il publie sa relativité générale.
Une révolution absolue. Ses propres équations expliquaient la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Mais mathématiquement, ça prouvait que l'univers ne pouvait pas rester immobile.
Il devait soit s'effondrer, soit s'étendre, c'est ça?
Oui. Avec toute la matière qu'il contient, la stagnation était impossible sur le papier.
Et pourtant, il a refusé d'y croire. Son propre travail lui disait la vérité, mais il a préféré trafiquer ses calculs pour que ça colle à ses croyances.
Il a littéralement ajouté un facteur de correction, la constante cosmologique, appelée lambda. C'était un truc totalement artificiel.
Un bouton de triche mathématique?
C'est un peu ça. Le but, c'était de créer une sorte de force de répulsion fictive, juste assez forte pour annuler la gravité et bloquer l'univers sur place.
C'est fou de se dire qu'Einstein a fait ça. Mais heureusement, dans les années 20, il y a une équipe assez improbable qui a fait éclater cette bulle. Hubble et Humason.
Milton Humason, oui. Et son parcours est incroyable.
J'adore son histoire. Le gars était dresseur de mules. Il passait ses journées à trimballer le matériel fragile des télescopes sur les chemins de montagne en Californie.
Au Mont Wilson, oui. Et à force de regarder les astronomes bosser la nuit, il s'est pris de passion.
Il a gravi les échelons et il est devenu l'un des meilleurs astronomes de l'histoire.
C'est beau. Et avec Edwin Hubble, ils ont fait un travail de titan. Ils utilisaient le télescope géant du Mont Palomar. Hubble passait des nuits entières, dans un froid glacial, assis dans une petite cage au-dessus d'un miroir de 5 mètres.
Tout ça pour photographier la lumière des galaxies et prouver la loi de Hubble.
Qui dit de plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite.
Et c'est là qu'il faut faire super attention. Parce que quand on entend ça, on s'imagine que les galaxies volent à travers l'espace, comme des petits vaisseaux spatiaux qui s'enfuiraient.
C'est le piège classique. L'intuition nous trompe complètement.
C'est pour ça que l'analogie du cake au raisin de la conférence est géniale. Imaginons qu'on fait un gâteau. La pâte crue, c'est l'espace. Et les raisins secs qu'on met dedans, ce sont les galaxies.
On met le tout au four.
Voilà. La pâte commence à cuire et à gonfler. Si on est assis sur un de ces raisins, on regarde autour de nous et on voit tous les autres raisins s'éloigner.
Mais le raisin ne bouge pas dans la pâte.
C'est exactement ça la clé. C'est la pâte elle-même qui se dilate et qui crée de la distance. L'espace-temps gonfle en permanence. Et c'est cet espace qui s'étire qui finit par étirer la lumière des galaxies, d'où le redshift.
Face à de telles preuves, même Einstein n'a plus pu nier. Quand il a vu les données de Hubble, il a fini par avouer son erreur.
Il a appelé cette fameuse constante lambda sa plus grande bêtise, c'est ça?
La plus grande bêtise de sa vie, oui. Bon, on verra plus tard que c'était peut-être pas si bête que ça.
Ah oui, le gros rebondissement de fin. Mais avant ça, si l'espace gonfle comme une pâte à gâteau, la conclusion logique, c'est de passer le film à l'envers.
Remonter le temps, oui.
Si on recule de presque 14 milliards d'années, 13,78 pour être précis, l'univers entier devait être super condensé.
C'est ce qu'on appelle souvent la singularité.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on arrive vraiment à un point de taille zéro?
En fait, ça soulève une question fondamentale sur nos limites. La singularité, c'est juste le moment où nos mathématiques explosent. À l'instant zéro, la densité devient infinie et la physique qu'on connaît, elle ne marche plus du tout.
L'infini, c'est le signe qu'on ne comprend plus rien.
C'est ça. Le vrai point de départ de la physique qu'on arrive à modéliser, c'est le temps de Planck. C'est-à-dire 10 puissance moins 43 secondes après le tout début.
10 puissance moins 43, c'est un 0, une virgule, 42 zéros et un 1.
Une fraction de seconde inimaginable.
C'est clair. Comment les physiciens peuvent affirmer quoi que ce soit sur un état aussi lointain ?
Grâce aux accélérateurs de particules. En cosmologie, la température et le temps sont liés. Plus on remonte dans le passé, plus l'univers était chaud et dense.
Et on peut recréer ça ?
Oui. Au CERN, avec le grand collisionneur de Hadron, le LHC, sous la frontière franco-suisse. Ils prennent des protons, ils les accélèrent presque à la vitesse de la lumière, et paf, ils les fracassent les uns contre les autres.
Donc en gros, on crée des mini-Big Bang sous la Suisse.
Des micro-boules de feu, oui. Et la température est tellement folle que les protons fondent. Ça crée une soupe de particules, un plasma de quarks et de gluons.
Ça me donne le vertige.
Et le truc dingue, c'est que ce plasma correspond très exactement à l'état de tout l'univers à 10 puissance moins 13 secondes. C'est du concret.
Et pour ce qu'il y a avant 10 puissance moins 13 secondes ?
Là, on passe dans la théorie pure. Les théoriciens des cordes estiment qu'il y aurait genre 10 puissance 500 solutions possibles pour expliquer l'origine.
10 puissance 500. Franchement, face à des chiffres pareils, le cerveau humain décroche. Et c'est marrant parce que le conférencier Perry Phillips, il aborde ça sous un angle sémantique hyper intéressant.
Par rapport au texte ancien.
Oui, il a aidé sa propre réflexion sur des textes bibliques, comme le livre de Job ou d'Ésaïe. Et sans prendre parti du tout sur la religion, si on regarde juste le vocabulaire, c'est fascinant.
Les mots choisis à l'époque, oui.
Ces textes parlent d'un créateur qui étend les cieux comme une tente ou qui étire les cieux. C'est fou, non ?
C'est très spécifique comme choix de verbe « étendre » ou « étirer » plutôt que « bâtir » ou « construire ».
Exactement. Pour un peuple de nomades dans l'Antiquité, voir une toile de tente qu'on déploie au-dessus du sol, c'était la meilleure métaphore pour décrire l'expansion de l'espace.
C'est fascinant de voir qu'on a toujours cherché les bons mots, que ce soit des mots spirituels ou scientifiques, pour décrire cette voûte céleste qui s'agrandit.
C'est très poétique, mais bon. On a retracé le passé, on a compris le présent. La question qui tue maintenant, c'est comment tout ça va finir, retombe.
Voilà, on pensait que l'univers faisait pareil. La masse cumulée de toutes les galaxies devrait agir comme un frein gigantesque sur l'élan du Big Bang.
Donc l'univers devait ralentir.
Tout le monde en était sûr. Le seul vrai débat, c'était de savoir si ça allait s'arrêter et s'effondrer sur soi-même, le fameux Big Crunch, ou si ça allait juste ralentir éternellement.
L'idée que ça puisse accélérer, c'était juste hors de question. Mais dans les années 90, les astronomes ont voulu vérifier ça. Et ils ont utilisé des étoiles très spéciales.
Les supernovas de type 1A.
C'est le Graal des astronomes.
C'est quoi la particularité de ces étoiles ? Ce sont des explosions d'étoiles qui brillent toujours avec exactement la même intensité. C'est pour ça qu'on les appelle des chandelles standards.
Un peu comme une ampoule de 100 watts. Si elle paraît faible, c'est juste qu'elle est super loin.
C'est le principe. En comparant la luminosité absolue de l'explosion avec ce qu'on reçoit dans nos télescopes, on a une règle pour mesurer des distances cosmiques énormes. Et en croisant ça avec la vitesse, on voulait mesurer à quel point l'univers ralentissait.
Et le résultat a mis un coup de massue à toute la communauté scientifique.
Un choc total.
Ils ont vu que la gravité avait bien fait son boulot de freinage pendant la première moitié de l'histoire de l'univers, pendant genre 9 milliards d'années.
Mais aujourd'hui,
quelque chose repousse activement le cosmos de plus en plus vite.
Et c'est là que l'histoire devient géniale. Tu te souviens de la plus grande bêtise d'Einstein ?
Sa fameuse constante lambda qu'il avait ajoutée pour tricher.
Eh bien, elle est de retour. Et c'est l'élément central aujourd'hui. Les cosmologistes ont repris sa constante mathématique pour représenter cette nouvelle force. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire.
L'énergie noire, c'est digne de Star Wars. Mais physiquement parlant, la conférence explique ça avec un concept de pression négative, c'est vraiment pas très intuitif.
C'est un peu dur à visualiser. Prenons un gaz enfermé dans un piston. Si le gaz pousse le piston vers l'extérieur, c'est une pression positive.
D'accord.
À l'inverse, si tu étires un élastique, la matière essaye de se rétracter. Elle tire vers l'intérieur. C'est une tension. Qu'on traduit mathématiquement par une pression négative.
Et l'univers se comporte comme un élastique.
D'une certaine manière, oui. Dans les lois d'Einstein, l'énergie et la pression génèrent toutes les deux de la gravité. Une pression positive crée une gravité qui attire, comme on la connaît, mais une pression négative constante, qui remplirait tout le vide de l'espace, ça crée une gravité répulsive.
Attends, la gravité repousse.
L'énergie noire repousse, oui. C'est une propriété du vide spatial lui-même. Plus l'univers gonfle, plus il y a de vide, et plus il y a de vide, plus il y a d'énergie noire.
Ah, c'est un cercle vicieux. Donc la répulsion devient de plus en plus forte, ce qui accélère l'expansion à l'infini.
C'est exactement ça.
C'est tellement fou que je repense à ce petit dessin humoristique de Randy Glasbergen cité dans la source. Il y a un savant qui lit ses notes et qui conclut « Après analyse, on a déduit que l'univers nous trouve amusants et il nous garde en vie juste pour se marrer de nos théories.
Franchement, vu le niveau de bizarrerie de l'univers, on ne peut pas donner tort à cette blague.
Entre une naissance microscopique des galaxies fuyantes parce que l'espace se dilate, et maintenant cette énergie noire qui accélère le tout, c'est un sacré parcours du combattant pour les physiciens.
Et le pire, c'est la conséquence de cette accélération finale. C'est assez troublant.
Oui, la conférence se termine sur une image vraiment vertigineuse.
Pour bien comprendre, il faut reprendre une autre analogie classique, celle d'un ballon de baudruche qu'on gonfle.
D'accord.
Imaginons qu'on soit des créatures plates, en deux dimensions, vivantes à la surface de ce ballon. Pendant qu'on le gonfle, la surface s'étire dans toutes les directions. Il n'y a pas de centre et il n'y a pas de bord de notre point de vue.
Ok, la surface grandit partout.
Alors, Einstein nous a appris que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est la limite de vitesse absolue de l'univers.
Rien ne dépasse la lumière.
Rien dans l'espace, oui. Mais il y a une énorme faille dans la règle. Il n'y a aucune limite de vitesse pour l'expansion de l'espace lui-même.
Attends, l'espace lui-même peut s'étirer plus vite que la lumière ?
Tout à fait. Et avec l'accélération de l'énergie noire, plus une galaxie est loin de nous, plus l'espace entre elle et nous s'étire vite.
Oh, je vois où ça mène.
Si une galaxie est suffisamment lointaine, la quantité d'espace qui se crée chaque seconde entre nous est tellement immense que cette distance augmente plus vite que la vitesse de la lumière.
Ça crée un genre d'horizon cosmique.
Exactement.
Ça veut dire que la lumière de ces galaxies, la lumière qu'elles émettent aujourd'hui, elle ne pourra jamais nous atteindre ?
Jamais ! L'espace s'arrondit tellement vite devant cette lumière qu'elle fait du surplace, comme quelqu'un qui courait sur un tapis roulant réglé trop fort.
C'est fou. Ces galaxies-là, elles continuent d'exister de leur côté.
Oui, elles vivent leur vie. Elles ne disparaissent pas physiquement.
Mais elles sortent définitivement de notre champ de vision. Elles disparaissent de l'univers observable, pour de bon.
Irréversiblement. C'est la conséquence tragique de l'énergie noire.
On dit souvent que regarder les étoiles, c'est utiliser une machine à remonter le temps. Mais on oublie que cette fenêtre sur le passé, elle est en train de se fermer.
Doucement, mais sûrement, oui.
Pendant qu'on se casse la tête à construire des télescopes toujours plus immenses pour cartographier le cosmos, il y a cette accélération silencieuse. Et à cet instant précis, pendant qu'on se parle, de gigantesques pans de notre univers glissent pour toujours de l'autre côté de ce rideau.
Perdus pour l'éternité.
Et pour boucler la boucle avec notre radiographie cosmique du début, en fait, la radio n'est pas seulement floue. Elle est carrément en train de s'effacer sous nos yeux. Bon, c'est une pensée un peu mélancolique pour finir, mais ça montre à quel point l'univers est une source d'émerveillement inépuisable.